Mark Twain, Sainte Jeanne d'Arc. Les pièces fournies par le procès et la réhabilitation donnent des détails minutieux et clairs sur l'histoire étrange et magnifique de Jeanne d'Arc. Parmi toutes les biographies qui surchargent les rayons des bibliothèques du monde entier, celle-ci est la seule dont la vérité nous ait été confirmée par serment. Nous y voyons d'une façon si saisissante les hauts faits et le caractère de cette extraordinaire personnalité que nous sommes prêts à en accepter les détails surnaturels. La carrière publique de Jeanne d'Arc ne dura que 2 ans, mais quelles années bien remplies! La plus profonde analyse ne suffit pas à nous faire comprendre cette âme tout entière, mais sans la comprendre toujours, il est bon de l'aimer avec étonnement et de l'étudier avec révérence. Dans la jeune Jeanne d'Arc de 16 ans, il n'y avait aucune promesse d'avenir romanesque. Elle vivait dans un morne petit village sur les frontières même du monde civilisé d'alors. Elle n'avait été nulle part, n'avait rien vu, et ne connaissait que de simples petits bergers. Elle n'avait jamais vu une personne d'un rang social un peu élevé. Elle savait à peine à quoi ressemblait un soldat. Elle n'était jamais montée à cheval et n'avait porté aucune arme. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle savait coudre et filer. Elle savait son catéchisme et ses prières, ainsi que les fabuleuses histoires des saints. C'était tout. Telle était Jeanne à 16 ans. Que savait-elle de la loi, des avocats, des procédés légaux? Rien, moins que rien. Ainsi équipée d'ignorance, elle se rendit devant le tribunal de Toul pour un procès où elle se défendit elle-même, sans avocat ni conseil d'aucune sorte. Elle ne fit citer aucun témoin, mais gagna sa cause en parlant nettement et sincèrement selon son cœur. Le juge, étonné, parla d'elle hors du tribunal en l'appelant « cette merveilleuse enfant ». Elle alla trouver le commandant en chef de la garnison de Vaucouleurs et lui demanda une escorte, disant qu'il lui fallait aller à l'aide du roi de France, puisque Dieu l'avait désigné pour lui reconquérir son royaume et lui remettre sa couronne. Le commandant lui dit « quoi, mais vous n'êtes qu'une enfant ?» Et il ajouta « il faut la ramener chez elle et la fouetter. » Mais elle répondit qu'elle devait obéir à Dieu et qu'elle reviendrait de nouveau, sans se lasser, autant de fois qu'il le faudrait, et que finalement elle obtiendrait l'escorte demandée. Et elle disait vrai. Avec le temps, l'officier fléchit, et après des mois de délais et de refus, il lui donna des soldats, puis il détacha son épée, et la lui donna en disant « Allez, et arrive que pourra !» Elle fit un long et périlleux voyage à travers un pays ennemi. Elle parla au roi et le convainquit. Elle fut alors priée de comparaître devant l'université de Poitiers pour prouver qu'elle était bien réellement envoyée par Dieu et non par le diable. Jour après jour, pendant 3 semaines, elle se présenta, sans timidité, devant la docte assemblée, et malgré son ignorance, elle trouva, dans son bon sens et dans son cœur simple et droit, des réponses excellentes aux plus profondes questions. De nouveau, elle gagna sa cause, ainsi que l'admiration de l'auguste compagnie. Et puis, à l'âge de 17 ans, elle devint généralissime de l'armée, ayant sous ses ordres un prince de la famille royale et plusieurs vieux généraux. À la tête de la première armée, qu'elle eût jamais vue, elle marcha sur Orléans. En 3 terribles combats, elle emporta d'assaut les principales forteresses de l'ennemi, et en 10 jours, elle fit lever un siège qui faisait échec depuis 7 mois aux forces réunies de la France. Après un stupide et énervant retard causé par les tergiversations du roi et les conseils traîtres de ses ministres, elle opta de reprendre les armes. Elle emporta d'assaut la place de Jargeau, puis la ville de Mains. Elle força Beaugency à se rendre, puis elle remporta la mémorable victoire de Patay contre Talbot, le lion anglais, et par là mit fin à la guerre de 100 ans. Cette campagne de 7 semaines avait produit des résultats considérables. Patay fut le Moscou de la domination anglaise en France. Ce fut le commencement du déclin d'une suprématie gênante qui avait accablé la France par période pendant 300 ans. Vint ensuite la fameuse campagne de la Loire, la prise de Troyes, puis, en prenant partout forteresses et villes, la marche triomphante jusqu'à Reims, où Jeanne couronna le roi dans la cathédrale au milieu des réjouissances publiques. Un paysan, son père, se trouvait là pour voir ces choses et essayer d'y croire. Grâce à elle, le roi avait retrouvé sa couronne et son royaume, et une fois dans sa vie, il se montra reconnaissant. Il demanda à Jeanne de désigner elle-même sa récompense. Elle ne demanda rien pour elle, mais demanda que les impôts de sa ville natale fussent abolis pour toujours. Cela lui fut accordé et la promesse fut tenue pendant 365 ans. Puis on l'oublia. La France était alors très pauvre. Elle est très riche maintenant, mais voilà plus de 100 ans qu'elle perçoit cet impôt. Jeanne demanda encore une autre faveur. Maintenant qu'elle avait rempli sa mission, elle voulait retourner dans son village et reprendre sa vie humble auprès de sa mère et de ses amis d'enfance, car elle ne prenait aucun plaisir aux cruautés de la guerre et à la vue du sang et de la souffrance lui brisait le cœur. Quelquefois, au milieu d'une bataille, elle ne tirait pas son épée de peur qu'emportée par la splendide folie de l'action, elle ne prit sans le vouloir la vie d'un ennemi. Une de ses plus jolies paroles à son procès de Rouen fut la naïve affirmation qu'elle n'avait jamais tué personne. Mais il ne lui fut pas accordé de retourner à la paix et au repos de son village. Alors elle demanda à marcher tout de suite sur Paris pour achever de chasser les Anglais hors de France. Elle fut en butte à tous les obstacles que pouvait lui susciter la traîtrise des courtisans et la faiblesse du roi. Mais à la fin, elle se força un chemin sur Paris, et à l'assaut d'une de ses portes, elle tomba grièvement blessée. Évidemment, ses hommes perdirent courage sur le champ, car c'était elle qui était tout leur ouvrage, et ils reculèrent. Elle supplia qu'on la laissât retourner en avant, disant que la victoire était certaine. « Je prendrai Paris maintenant ou je mourrai, » dit-elle. Mais on l'emporta de force du lieu de l'action. Le roi ordonna la retraite et alla jusqu'à licencier ses hommes. Selon une vieille et belle coutume militaire, elle consacra son armure d'argent en la suspendant dans la cathédrale de Saint-Denis. Les grands jours étaient finis. Par ordre, elle suivit le roi et sa cour frivole et endura pour un temps une captivité dorée. Mais sa fierté d'esprit s'accommodait mal de cet état de choses et lorsque l'inaction lui devenait trop insupportable, elle rassemblait quelques hommes et s'élançait à l'assaut de quelques forteresses qui capitulaient toujours. À la fin, le 24 mai, dans une sortie à Compiègne, elle fut prise elle-même après une résistance désespérée. Elle venait d'avoir 18 ans et ce fut sa dernière bataille. Ainsi finit la plus brève et la plus éclatante carrière militaire qu'ait enregistrée l'histoire. Cette carrière n'avait duré qu'un an et un mois. Mais à son début, la France était une province anglaise, et à la fin, l'état du pays était tel que l'on comprend que la France soit aujourd'hui la France. 13 mois, ce fut vraiment court. Mais dans les siècles qui se sont écoulés depuis, 500 millions de Français ont vécu et sont morts heureux parce que Jeanne d'Arc batailla pendant ces 13 mois. Jeanne était destinée à passer le reste de ses jours derrière des murs et des écrous. Elle était prisonnière de guerre, mais non pas criminelle, et sa captivité fut en conséquence reconnue comme honorable. D'après les lois de la guerre, elle devait être mise à rançon, et un bon prix ne pouvait être refusé s'il était offert. Jean de Luxembourg lui fit le juste honneur de réclamer pour elle une rançon de prince. Dans ce temps-là, cette expression représentait une somme définie, 61 125 francs. Il était naturellement à supposer que le roi ou la France reconnaissante, l'un et l'autre sans doute, s'empresseraient d'offrir l'argent nécessaire pour libérer leur jeune bienfaitrice. Mais cela n'eut pas lieu. En 5 mois et demi, ni le roi ni le pays ne surent lever la main ni offrir un sou. 2 fois, Jeanne essaya de s'échapper. Une fois, elle faillit réussir par stratagème. Elle enferma son geôlier derrière elle, mais elle fut surprise et ramenée. Dans l'autre cas, elle se laissa glisser d'une tour de 60 pieds de haut, mais sa corde étant trop courte, elle fit une chute, se blessa et ne put s'évader. Enfin, Cochon, évêque de Beauvais, paya la rançon demandée et acheta Jeanne pour l'Église et pour les Anglais. Il la fit mettre en jugement sous l'accusation d'avoir porté des vêtements d'homme et d'avoir proféré des impiétés. Mais en réalité, il s'agissait de s'en débarrasser. Elle fut alors enfermée dans les donjons du château de Rouen et écrouée dans une cage de fer, pieds et poings liés, et le cou attaché à un pilier. Durant tous les mois de son emprisonnement, et à partir de ce moment jusqu'à la fin, plusieurs grossiers soldats anglais montèrent nuit et jour la garde autour d'elle, à l'intérieur même de sa cellule. Ce fut une lugubre et hideuse captivité, mais cela ne dota pas son courage. Elle demeura prisonnière pendant 1 année. Elle passa les 3 derniers mois à défendre sa cause devant une formidable assemblée de juges ecclésiastiques, leur disputant le terrain, lambeau par lambeau, et pied à pied, avec une adresse étonnante et un courage indomptable. Le spectacle de cette jeune fille abandonnée et solitaire, sans avocat ni conseiller, ne connaissant pas l'acte d'accusation, n'ayant pas même, pour venir en aide à sa merveilleuse mémoire, le compte-rendu des séances journalières du procès, et livrant, calme et sans épouvante, cette longue bataille contre de si formidables adversaires, est un fait d'une sublime grandeur. Pareille chose n'a nulle part été vue, ni dans les annales de l'histoire, ni dans les trouvailles de l'imagination. Et qu'elles étaient grandes et belles, les réponses qu'elle faisait constamment. Qu'elles étaient fraîches et juvéniles. Et il faut se rappeler qu'elle était fatiguée, harassée de corps autant que d'esprit. Tous les avantages qu'a la science sur l'ignorance, l'expérience sur l'inexpérience, l'esprit de chicane sur la candeur, tous les guet-apens que peuvent imaginer les malicieuses intelligences habituées à poser des pièges aux simples, tout cela fut employé contre elle, sans la moindre honte. Elle fut condamnée au feu, sans preuve, naturellement, et uniquement parce que ses juges devaient la condamner par ordre. Ses derniers moments et sa mort furent admirables, et d'un héroïsme qui n'a pas été atteint, non en vérité par aucune autre créature humaine. Jeanne d'Arc est la merveille des siècles. Lorsque nous réfléchissons à son origine, à son milieu, à son sexe, à son âge, nous sommes obligés de reconnaître qu'elle demeura très certainement la merveille des siècles. Lorsque nous considérons un Napoléon, un Shakespeare, un Wagner, un Edison, nous sentons bien que le génie d'un de ces hommes s'explique en grande partie par le milieu, les circonstances, la culture, etc. Mais lorsqu'il s'agit de Jeanne d'Arc, il n'en est plus de même. Elle est née avec tout son génie, formée, prête à s'exercer. À 16 ans, elle étonne des juges. Elle n'a jamais vu d'armée. Il y a eu de jeunes généraux victorieux dans l'histoire, mais tous avaient débuté par des grades inférieurs, et en tout cas, aucun n'a été une jeune fille. En somme, nous pouvons concevoir que Jeanne soit née avec de grandes qualités de cœur et d'esprit. Mais ce qui nous confond, c'est que ces qualités aient immédiatement atteint leur maximum d'efficacité sans préparation d'aucune sorte. Nous pouvons comprendre comment la future pêche est en puissance dans une petite amande amère, mais nous ne pouvons concevoir la pêche née spontanément, sans des mois de lent développement et sans les effluves du soleil. Jeanne d'Arc sort tout équipée de son humble milieu et de son obscur village. Elle n'a rien vu, rien lu, rien entendu. C'est cela qui nous stupéfie. Car enfin, on ne peut nier qu'elle n'ait été grand capitaine, ni que son esprit n'ait eu de merveilleuses ressources devant les fourbes et savantes questions de ses juges et bourreaux. Dans l'histoire du monde, Jeanne d'Arc demeure donc seule comme une personnalité unique et inégalée. Son histoire a encore un autre trait qui la met hors des catégories où nous nous complaisons à ranger les hommes illustres. Elle eut le don de prophétie. Elle prédit à l'avance la longueur de sa carrière militaire. La date du jour où elle devait être faite prisonnière et bien d'autres événements dont elle spécifiait la date et le lieu. Et toujours, ses prédictions se réalisèrent. Un moment où la France paraissait encore entre les mains des Anglais, elle affirma 2 fois devant ses juges qu'en moins de 7 ans, les Anglais seraient hors de France, ce qui se produisit en réalité. Jeanne était douce, simple et aimable. Elle aimait son pays natal, ses amis, la vie de son petit village. Après ses plus belles victoires, elle oubliait sa gloire pour bercer de mots consolants les mourants et les blessés. Elle était femme. La première fois qu'elle fut blessée, elle pleura à la vue de son sang. Mais entendant les autres généraux parler de retraite, elle remonta précipitamment à cheval et se rua à l'assaut. Comme il est étrange de constater que les artistes qui ont représenté Jeanne d'Arc ne se sont jamais souvenus que d'un seul et petit détail, à savoir qu'elle était une paysanne et qu'ils en ont fait une sorte de bonne prêcheuse du Moyen-Âge, sans finesse de trait. Les artistes se sont montrés les esclaves d'une idée figée, et ils ont oublié d'observer que les âmes sublimes ne sont jamais logées dans des corps grossiers. Car l'âme pétrit la chair par laquelle elle s'extériorise, et dans la lutte entre le corps et l'esprit, c'est ce dernier qui l'emporte lorsqu'il s'agit d'une Jeanne d'Arc. Nous savons à qui ressemblait Jeanne d'Arc sans chercher bien loin, simplement en nous rappelant ce qu'elle a fait. L'artiste devrait peindre son âme, et alors du même coup, il peindrait son corps avec vérité. Elle s'élèverait alors devant nous comme une attirante vision. Nous verrions un corps élancé, svelte et jeune, empreint d'une grâce inimaginable et émouvante, une figure transfigurée par la lumière de cette brillante intelligence et le feu de cet esprit surhumain. Si nous considérons, comme je l'ai déjà dit, l'ensemble des circonstances, origine, jeunesse, sexe, ignorance, premier entourage, opposition et obstacles rencontrés, victoire militaire et triomphe de l'esprit, il est facile de regarder Jeanne d'Arc comme la créature de beaucoup, la plus extraordinaire que la race humaine ait jamais produite.